Vie et destin de Saül, roi d'Israël, premier roi d'Israël. J'aimerais dédicacer cette prédication à Paul Appéré, qui m'en a suggéré l'idée il y a déjà un certain temps, sinon un temps certain, il a sans doute oublié, mais pas moi, pour Paul, avec reconnaissance et affection, et bien sûr pour vous tous, chers amis. Vie et destin de Saül. Pensant à Saül et à préparer ce message à son sujet, je me suis pas mal interrogé. Y a-t-il beaucoup à apprendre d'une personne telle que Saül, dont le moins que l'on puisse dire est qu'il n'a pas spécialement brillé par ses qualités et dont on ne suivra pas volontiers l'exemple dans nombre de ses actions et comportements? Regardez à David, à Josias, à Ézéchias. Oui, là, il y a matière à enseignement positif, même si ces hommes n'ont pas été parfaits. Mais j'ai pensé que l'on pouvait aussi apprendre des erreurs, des fautes même de personnes telles que Saül, finalement. Pourquoi est-ce que son histoire nous est racontée s'il n'y avait pas d'enseignement à en tirer? Et puis, j'ai aussi pensé que peut-être Saül était un petit peu comme un type de l'homme, de tout homme, dans ses bonnes intentions, ses erreurs, ses errances, ses fautes, ses péchés, ses égarements, ses repentirs et ses rechutes, sa méconnaissance de Dieu, son échec. Certes, la plupart des hommes, et heureusement, ne sont pas des puissants, non plus que des meurtriers, des hommes dangereux et ou malades dans leurs esprits. Mais dans le cœur de l'homme, de tout homme, et même dans nombre des actes, des comportements, des pensées, l'homme naturel ne ressemble-t-il pas quelque peu à Saül? Et peut-être pouvons-nous apprendre quelque chose là. Enfin, j'ai pensé que Saül, ce premier roi d'Israël, loin de l'Éternel, était aussi et quand même une préfiguration du vrai roi d'Israël, comme une image, certes déformée, extrêmement, ô combien imparfaite, mais malgré tout, une image qui peut nous aider peut-être dans la comparaison, à mieux apprécier dans sa vie, ses actes, son comportement, son sacrifice, notre vrai roi, Jésus-Christ. Je proposerai donc une réflexion en trois parties dont nous verrons ce matin les deux premières. Première partie, vie et destin de Saül. Deuxième partie, que j'appellerai de manière un petit peu provocative, Saül, mon frère. Enfin, une troisième partie que j'appellerai le vrai roi et sur laquelle nous nous arrêterons une prochaine fois, Dieu voulant. Bien sûr, nous ne pouvons malheureusement pas lire ce matin tous les textes relatifs à Saül, et j'ai donc dû sélectionner, choisir quelques épisodes, j'espère représentatifs, mais bien sûr le choix est arbitraire et contestable. Et nos lectures seront forcément réduites, même si déjà trop nombreuses et trop longues. Je vous inviterai à relire chez vous l'ensemble des textes que vous trouverez qui concernent Saül, et vous les trouverez en 1 Samuel chapitre 8 jusqu'à 2 Samuel chapitre 1 et aussi dans le 10e chapitre de 1 Chronique. Vie et destin de Saül, roi d'Israël. 8 étapes, 8 points ont retenu mon attention qui, je crois, résument assez bien la vie de Saül. 1 Samuel chapitre 9 verset 18 à 21. Saül s'approcha de Samuel à la porte de la ville et dit « Indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant ?» Samuel répondit à Saül « C'est moi le voyant, monte avec moi vers le haut lieu. Vous mangerez aujourd'hui avec moi, je te laisserai partir ce matin et je t'indiquerai tout ce qui est dans ton cœur. Ne t'inquiète pas de tes ânesses perdues, il y a aujourd'hui 3 jours, car elles sont retrouvées. À qui sera tout ce qu'il y a de précieux en Israël? N'est-ce pas à toi et à toute la maison de ton père? » Saül répondit, « Ne suis-je pas benjaminite de l'une des plus petites tribus d'Israël? Mon clan n'est-il pas le plus petit de tous les clans des tribus de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte ?» Chapitre 10, verset Verset 1, Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül, il l'embrassa et dit, « L'Éternel t'a donné l'onction pour que tu sois le conducteur de ton héritage. » Verset 17, Samuel convoqua le peuple devant l'Éternel à Mitzpah. Il fit approcher, verset 20, toutes les tribus d'Israël et la tribu de Benjamin fut désignée. Il fit approcher la tribu de Benjamin par clan et le clan de Matri fut désigné. Puis Saül, fils de Kish, fut désigné. On le chercha, mais on ne le trouva pas. On consulta de nouveau l'Éternel. Y a-t-il encore un homme qui soit venu ici ? Et l'Éternel dit, voici qu'il est caché du côté des bagages. On courut le tirer de là et il se présenta au milieu du peuple. Il les dépassait tous de la tête. Samuel dit à tout le peuple, voyez-vous celui que l'Éternel a choisi ? Il n'y en a point comme lui dans tout le peuple. Tout le peuple lança une clameur et cria, vive le roi ! Verset 26, Saül s'en alla aussi chez lui à Gibéa. Il fut accompagné par les hommes de valeur dont Dieu avait touché le cœur. Il y eut toutefois des vauriens qui disaient, « Quoi, c'est celui-ci qui nous sauvera ?» Ils le méprisèrent et ils ne lui apportèrent aucun présent. Mais Saül garda le silence. Une timidité, une modestie sympathique chez Saül. Saül est oint par Samuel dans l'intimité, dans le secret. Et puis publiquement, devant tout le peuple, il s'agit que soit choisi, désigné le premier roi d'Israël, et c'est Saül que Samuel va donc désigner. Mais on le cherche. Où est-il ? Où est-il ce Saül que l'Éternel veut à son service ? Et il est caché, quelque part, sans doute désireux, que l'on l'oublie, qu'on pense à quelqu'un d'autre, que l'on cherche quelqu'un d'autre. Il n'estime pas alors qu'il soit naturel d'être désigné pour régner. Il est jeune et, si d'une famille aisée sans doute, non pas dominante dans Israël. Chapitre 11, verset 1. Nahash l'Ammonite vint camper devant Yabesh en Galaad. Tous les hommes de Yabesh dirent à Nahash, « Conclue une alliance avec nous et nous te servirons. » Mais Nahash l'Ammonite leur répondit, « Je la conclurai avec vous à la condition que je vous crève à tous l'œil droit et que j'inflige ainsi un déshonneur à tout Israël. » Les anciens de Yabesh lui dirent, « Accorde-nous une trêve de 7 jours afin que nous envoyions des messagers dans tout le territoire d'Israël, et si nul ne peut nous sauver, nous nous rendrons à toi. » Les messagers arrivèrent à Gibéa de Saül et rapportèrent ces paroles aux oreilles du peuple. Tout le peuple éleva la voix et pleura. Or voici que Saül arrivait des champs derrière ses bœufs. Il dit, « Qu'a donc le peuple pour pleurer ?» On lui rapporta les paroles de ceux de Yabesh. L'Esprit de Dieu s'empara de Saül quand il entendit ces paroles, et sa colère s'enflamma fortement. Verset 11. Le lendemain, Saül divisa le peuple en 3 troupes. Ils pénétrèrent dans le camp au moment de la veille matinale et ils battirent amont jusqu'à la chaleur du jour. Quant aux survivants, ils furent disséminés et il n'en resta pas 2 ensemble. Le peuple dit à Samuel, « Qui est-ce qui disait, Saül régnera-t-il sur nous ? Livrez ces gens et nous les ferons mourir. » Mais Saül dit, « Personne ne sera mis à mort en ce jour, car aujourd'hui, l'Éternel a fait œuvre de salut. » Nous voyons ici encore la modestie, la retenue de Saül. Il est animé d'un zèle louable. Il est prêt à s'engager pour défendre ses frères menacés. Et il va dynamiser ses compatriotes. Il va vraiment là se manifester comme leur leader, comme leur roi. Et il fait preuve de sagesse, de mesure, de spiritualité en refusant de se venger de ceux qu'il avait méprisés lors de son intronisation. Jusqu'ici, donc, un Saül assez exemplaire. Mais hélas. Chapitre 15, verset 24. 1 Samuel 15, 24. Alors Saül dit à Samuel, « J'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et tes propres paroles. » Samuel avait donné des consignes à Saül d'attendre. Et Saül a attendu un petit peu et puis il n'a pas pu attendre davantage. Devant Samuel, il s'excuse ainsi. « J'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et tes propres paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché. Reviens avec moi, je me prosternerai devant l'Éternel. » Et verset 30, Saül dit encore, « J'ai péché. Maintenant, je te prie, honore-moi devant les anciens de mon peuple et devant Israël. Reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel, ton Dieu. » orgueil et vanité, troisième étape dans la vie de Saül. Oui, hélas, la modestie et l'esprit de service ne résistent pas à son orgueil, à sa vanité blessée. Cela ne va pas résister longtemps. Nous lisons au chapitre 18, verset 6. Au moment où les gens rentraient lors du retour de David après qu'il eut frappé le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël en chantant et en dansant à la rencontre du roi Saül au son des tambourins, des cris de joie et des triangles. Les femmes se répondaient en riant les unes aux autres et disaient « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000 ». Une très grande colère s'empara de Saül qui prit mal la chose. Il dit « On en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. » Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Alors qu'il a désobéi aux ordres de Samuel, ce qui semble importer à Saül plus que tout, c'est que Samuel l'honore malgré tout devant le peuple. « Reviens avec moi devant le peuple, que s'efface ce malentendu. » Au lieu de reconnaître ses fautes, comme au lieu de se réjouir que Dieu utilise David pour le bien de la nation, du peuple, Saül ne considère que son image, que son orgueil blessé. Et David, ce petit David, est célébré davantage dans les chants des filles d'Israël que Saül le roi lui-même. Saül est vexé, blessé, en colère, et il n'abandonnera de toute sa vie pas véritablement ses sentiments. Chapitre 18, versets 10 à 11. Le lendemain, un mauvais esprit venant de Dieu s'empara de Saül, qui entra en transe au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours, et Saül avait sa lance à la main. Saül brandit sa lance en disant « Je frapperai David contre le mur », mais David se détourna de lui deux fois. Saül craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David et s'était éloigné de lui. Un esprit torturé. Saül va laisser le mal l'envahir, sa colère rentrer, née de ses vexations ressenties, produisent en lui ces mauvaises choses qui le tourmentent et l'habitent longtemps, durablement, douloureusement. Il est ici un peu comme Caïn, habité par la jalousie vis-à-vis de son frère Abel. Et que Dieu mette en garde, Caïn, attention à ce que tu abrites. Ici, pareillement, Saül garde en lui ces choses. Il ne cherche pas en Dieu la libération de ses souffrances intérieures, de ses angoisses. Il est déjà un homme seul. Il accepte le soulagement que David lui apporte en jouant de son instrument. Mais on ne le voit pas se tourner vers Dieu comme David lui-même saura le faire si souvent. Chapitre 19, verset 8 et 9. La guerre continuait. David sortit pour faire la guerre aux Philistins. Il leur fit éprouver une grande défaite et ils s'enfuirent devant lui. Alors le mauvais esprit venant de l'Éternel fut sur Saül qui était assis dans sa maison, sa lance à la main. David jouait de la harpe. Saül voulut le frapper avec sa lance contre le mur, mais David se dégagea de Saül qui frappa le mur de sa lance. David prit la fuite et s'échappa pendant la nuit. Saül envoya des émissaires à la maison de David pour le garder et le faire mourir au matin. Chapitre 24, verset 9. Après cela, David se leva et sortit de la caverne. Vous connaissez cet épisode où Saül est dans la caverne, David s'y rend aussi. Il a l'occasion de se venger, de tuer Saül. Il ne le fait pas. Après cela, David se leva, sortit de la caverne, se mit alors à crier derrière Saül, « Au roi, mon Seigneur !» Saül regarda derrière lui et David s'inclina le visage contre terre et se prosterna. David dit à Saül, « Pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent, « David, cherche ton malheur. Tu vois en ce jour de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains. » Dans la caverne. On m'a dit alors de te tuer, mais je t'ai épargné et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est le Messie de l'Éternel. Verset 17, lorsque David eut fini d'adresser à Saül ses paroles, Saül dit, est-ce bien ta voix, mon fils David ? Et Saül se mit à sangloter. Puis il dit à David, tu es plus juste que moi, car tu m'as rendu du bien et moi, je t'ai rendu le mal. » Chapitre 26. Dans une autre occasion encore, David épargne la vie de Saül. Et Saül dit au verset 21, « J'ai péché, reviens mon fils David, car je ne te ferai plus de mal, puisqu'en ce jour ma vie a été précieuse à tes yeux. J'ai agi comme un insensé et j'ai commis une grande erreur. » Saül, verset 25, dit à David, « Sois béni mon fils David, autant feras-tu, autant réussiras-tu. » David continua son chemin et Saül retourna chez lui. David dit en lui-même, « Je périrai un jour par la main de Saül. Il n'y a rien de mieux pour moi que de m'échapper pour de bon en allant au pays des Philistins. » Saül a laissé, nous l'avons dit, sa jalousie, sa vanité blessée, le mener à une haine implacable, à une colère ardente contre son serviteur David. Et puis comme David, à plusieurs reprises, qui aurait pu tuer son ennemi, lui a fait grâce, Saül se repent, regrette, remercie David, l'appelle son fils, pleure, il sanglote. Mais cela ne dure pas. Très rapidement, il retombe dans sa haine paranoïaque et cherche à nouveau à tuer David. Et celui-ci entend bien que cela restera dans le cœur de Saül. Sans doute, Saül est-il sincère quand il exprime ses regrets à David. Mais il ne construit rien sur ses regrets. Il ne tire pas de conséquences de ce qu'il vient de vivre, de la constatation de la bienveillance de David pour lui. Et il retombe dans ses travers dramatiques. Retournons un tout petit peu en arrière, au chapitre 15 de 1 Samuel, pour relire un verset que nous avons déjà lu, 15, verset 30. Saül dit encore, « Maintenant, je te prie, honore-moi devant les anciens de mon peuple et devant Israël. Reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel, ton Dieu. » Puis dans le livre des Chroniques, chapitre 10. Versets 13 à 14. Saül mourut par suite de l'infidélité dont il se rendit coupable envers l'Éternel. Il n'avait pas observé la parole de l'Éternel, mais avait interrogé pour les consulter ceux qui évoquent les morts. Il ne consulta pas l'Éternel. L'Éternel le fit donc mourir et transféra la royauté à David, fils d'Isaïe. Le Dieu de Samuel. Saül est quelqu'un de religieux. Il croit en Dieu, mais il connaît peu Dieu. Il le cherche peu, il lui obéit peu, il lui désobéit beaucoup. Dieu, manifestement, n'est pas son Dieu. C'est le Dieu de Samuel, c'est le Dieu de David. Il est frappant de constater cette différence. David s'adressera toujours à Dieu, comme à son Dieu, non pas au Dieu de Samuel ou de ses parents, mais à son Dieu, parce qu'il connaît Dieu, parce qu'il sait que Dieu l'aime, le connaît, le dirige, le reprend. Comme un père, son enfant. Saül n'a pas cette relation, hélas. Saül va consulter le dernier jour de sa vie une voyante, mais il néglige de consulter l'Éternel. Alors, l'échec de Saül. 1 Chronique, chapitre 10, versets 1 à 7. Les Philistins livrèrent bataille à Israël. Les soldats israélites s'enfuirent devant les Philistins et tombèrent blessés à mort sur la montagne de Gilboa. Les Philistins serrèrent de près Saül et ses fils. Ils tuèrent Jonathan, Abinadab et Malkishua, fils de Saül. Le poids du combat porta sur Saül. Les archers le découvrirent et il trembla fort devant eux. Saül dit alors à celui qui portait ses armes, « Tire ton épée, transperce-moi, de peur que ces incirconcis ne viennent me faire subir leurs outrages. » Celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi d'une grande crainte. Alors Saül prit l'épée et se jeta dessus. Celui qui portait les armes de Saül, le voyant mort, se jeta aussi sur l'épée et mourut. Ainsi moururent Saül et ses trois fils, et toute sa maison mourut en même temps. Tous ceux d'Israël qui étaient dans la vallée virent qu'on s'enfuyait et que Saül et ses fils étaient morts. Ils abandonnèrent leur ville et s'enfuirent, et les Philistins vinrent y habiter. C'est la fin pour Saül. Défaite militaire, échec de son règne, échec de sa vie, échec pour son pays. Saül se donne la mort, sachant qu'il n'y a plus d'espoir et que les ennemis le tueront abominablement s'il ne se tue lui-même. Et la veille de ce jour, nous l'avons dit, Saül s'était tourné à l'instigation de ses serviteurs vers une voyante, hélas, pour consulter Samuel. Quel manque de sagesse, quelle marque de désespoir. L'échec final d'une vie bien commencée, mal prolongée, mal terminée. Mais une grâce peut-être. Chapitre 1 du deuxième livre de Samuel, verset 17. David entonna cette complainte sur Saül et sur son fils Jonathan. Et il ordonna de l'enseigner au fils de Juda. C'est le chant de l'arc. Il est écrit dans le livre du juste. Ton élite Israël a été transpercée sur tes hauts lieux. Comment des héros sont-ils tombés? Ne l'annoncez pas dans Gat. N'emportez pas la bonne nouvelle dans les rues d'Ascalon, de peur que les filles des Philistins ne se réjouissent, de peur que les filles des incirconcis n'exultent. Montagne de Gilboa, qu'il n'y ait sur vous ni rosée, ni pluie, ni champs riches en offrandes, car c'est là qu'ils ont connu l'abjection, les boucliers des héros. Le bouclier de Saül, sans être frotté d'huile, devant le sang des blessés, devant la graisse des héros, l'arc de Jonathan ne reculait pas et l'épée de Saül ne retombait pas à vide. Saül et Jonathan, aimés et chéris pendant leur vie, n'ont pas été séparés dans leur mort. Ils étaient plus légers que des aigles, ils étaient plus forts que des lions. Filles d'Israël pleuraient sur Saül, qui vous revêtait magnifiquement de cramoisi, qui mettait une parure d'or sur vos habits. Comment des héros sont-ils tombés au milieu du combat? Nous ne savons si Saül a été l'objet de la grâce de Dieu. Il me semble que l'on peut penser que oui, que l'on peut espérer que oui. À la lecture de ce chant funèbre de David qui célèbre Saül et Jonathan, je ne crois pas que ce soit simplement par convention, dans une espèce de diplomatie bienvenue, de bien-pensant, que ces paroles de David soient conservées, qu'elles nous aient été conservées, et que David incite à les enseigner. Saül était loin par Samuel. Il a été très imparfaitement, c'est vrai, mais il a quand même rempli ce ministère royal, choisi par Dieu, et malgré ses fautes nombreuses et graves, et nous n'avons pas évoqué toutes les horreurs commises par lui et ou en son nom, on peut espérer que la grâce de Dieu a peut-être pu néanmoins le toucher et qu'il a été sauvé comme au travers du feu, pour reprendre l'expression utilisée par l'apôtre Paul des siècles plus tard. Voilà pour l'histoire de Saül. Relisez ces chapitres. Saül, mon frère, un peu choquant, un peu exagéré cela, n'est-ce pas? Préférons penser à David ou Ézéchias comme notre frère, Salomon même. Mais si David, par excellence, n'a pas été parfait, quand même, David. Mais Saül. Alors heureusement, nous ne sommes pas meurtriers, ni animés, je l'espère, de désirs meurtriers, ni enfermés dans un orgueil maladif, ni enfermés donc dans ces sentiments mauvais. Mais il me semble que beaucoup de ce que nous observons chez Saül, nous pouvons l'observer en nous-mêmes. Nous l'avons vécu, sans doute de manière moins dramatique, moins extrême. Nous le ressentons peut-être. Oui, nous ne sommes pas d'une autre nature que Saül. Je vous invite à reprendre ces étapes retenues dans la vie de Saül et voyons si cela entre comme un peu en écho avec nos propres vies. Timidité et modestie. Qui n'a pas une certaine timidité et une modestie qui font douter que l'on soit capable d'accomplir certaines choses, qui nous bloquent quelque peu, nous mènent à rechercher plutôt l'anonymat que d'être en vue, sous le regard des autres, qui nous poussent à renoncer à telle ou telle action que nous devrions faire, à telle ou telle parole que nous devrions dire. La timidité. Mais il faut le dire, la timidité ne protège pas de l'orgueil. N'est pas toujours gentil et humble celui qui est timide. Je le sais d'expérience, j'ai toujours été timide, mais je n'ai pas toujours été modeste et humble, je le dis à ma honte. Alors certes, parfois l'on souhaiterait que certaines personnes soient un peu plus timides, et les enfants timides, c'est parfois bien reposant, mais ne laissons pas cela, la timidité ou une modestie malvenue, ne laissons pas cela nous empêcher de faire ce qui est bien. Cela n'a pas empêché Saül au début de son règne. Soyons modestes et humbles, cela est toujours bon. Modeste et humble, c'est toujours bon. Je dis ça souvent à mes patients qui sont dans un sentiment d'infériorité, d'humiliation, qui disent sur eux-mêmes des choses excessives et destructrices. Ça n'est pas bon. Mais soyez modestes et humbles, ça c'est toujours bon. Y a-t-il jamais à s'enorgueillir de quelque chose? Mais sachons nous réjouir de ce que Dieu nous donne. Dieu avait donné à Saül de belles qualités pour qu'il les exploite dans le service qui lui était confié. Il l'a fait un peu, trop courtement. Sachons faire ce que Dieu nous confie mieux, malgré notre timidité, malgré nos limites, malgré nos faiblesses. Soyons humbles, mais motivés, habités par l'Esprit de Dieu, forts et confiants dans un service qu'il nous confie. Et il confie, nous le croyons, un service à chacun, un ministère à vivre. Ce que Saül a su vivre un temps, pleinement consacré et fidèle, c'est aussi ce à quoi nous sommes appelés. Diversité de dons, diversité de ministères dans l'Église, mais un même esprit, le même esprit de Dieu qui nous habite, nous dirige, nous confie de belles tâches. Tous ne sont pas appelés aux mêmes choses, aux mêmes responsabilités, aux mêmes services, mais tous sont qualifiés par Dieu pour son service. Exerçons-les avec fidélité, sérieux et amour, orgueil et vanité. Ma femme aurait sans doute souhaité que je dise orgueil et préjugé, mais tant pis, ce sera orgueil et vanité. Nous aimerions pouvoir dire que cela ne nous concerne pas ou ne nous concerne plus. Pour la modestie, je crois personne. Mais en nous-mêmes, nous savons comme il peut être difficile de ne pas céder à l'orgueil. Nous en voyons d'innombrables exemples, présences dans le monde, tout autour de nous, sans arrêt. Pensez par exemple à tous ces candidats potentiels à l'élection présidentielle de 2017. Combien sont essentiellement animés par la vanité et l'orgueil pour que l'on parle d'eux, que l'on voit leur image, plus que par un désir profond et sain de servir leur pays. Et sans doute que plusieurs parmi eux n'auraient pas aimé non plus que l'on dise 10 000 pour lui et 1 000 pour toi. Mais parmi les chrétiens même, n'arrive-t-il pas que des tensions, des conflits soient nés de l'orgueil, de la vanité blessée que l'on pense blessée par tel ou tel frère? Pourquoi a-t-on demandé ce service à ce frère plutôt qu'à moi? Ne suis-je pas aussi capable, aussi en droit de faire cela? Pourquoi pas à moi? Et en nous-mêmes, n'avons-nous pas à lutter parfois contre ces pensées d'orgueil, de vanité, à lutter pour rejeter des sentiments de vexation, des blessures d'amour propre? Prenons garde à ne pas laisser ces choses, ces sentiments, ces pensées faire leur demeure en nous, s'y abriter, y faire nid et nous empoisonner. Un esprit torturé. Mes amis, il peut aussi nous arriver d'être troublés en nous-mêmes. Dépression, angoisse, obsession, interprétations obsédantes, idées noires, pensées suicidaires même, pensées agressives, tout cela peut nous arriver. Oui, notre esprit est aussi susceptible d'être atteint que notre corps physique. Il n'y a pas de honte à cela, a priori. Mais sachons reconnaître nos faiblesses et sachons les traiter comme il convient. Toujours en nous confiant en Dieu, que ce soit pour la sciatique qui nous handicape ou pour la dépression qui nous envahit, et puis en utilisant ce que Dieu nous donne, les traitements médicamenteux, les traitements psychologiques, l'accompagnement spirituel, les prières, tout cela, si Dieu le permet. Certains chrétiens, c'est vrai, ne pensent pas légitime de se soigner par des soins psychiatriques alors que ce serait a priori nécessaire, que ceci serait a priori nécessaire. Il me semble qu'il est simplement juste de profiter de ce que Dieu nous donne aujourd'hui, que ce soit les antibiotiques ou des traitements psychotropes, si nous en avons besoin et si nous savons ne pas mettre notre confiance d'abord ou uniquement dans des médicaments ou auprès de médecins spécialistes, mais en Dieu lui-même, en toute chose et d'abord. Reprenons ainsi ce qu'Ambroise Paré disait, je le pensais, Dieu le guérit. Des repentirs incomplets, des regrets stériles. Nous péchons, hélas, nous péchons. Nous prenons conscience de cela, en général, sinon souvent. Nous réparons quand c'est possible et nous demandons pardon à Dieu. Et chose bouleversante, il nous pardonne. Il nous pardonne. Et nous péchons à nouveau. Et nous demandons pardon à Dieu et il nous pardonne. Combien de fois pardonnerai-je à mon frère ? Demande Pierre à Jésus. Sera-ce 7 fois ? 7 fois, Jacques et Jean, qui quand même souvent sont un petit peu difficiles. 7 fois ? Non, dit Jésus, pas 7 fois. 70 fois 7 fois, c'est-à-dire tout le temps. Et Dieu nous pardonne 70 fois 7 fois. Mais Dieu nous demande d'être sincères, de comprendre la gravité du péché, de tout péché. Il nous demande, il attend de nous que nous fassions tout pour ne pas pécher, pour ne plus pécher. Si mon péché est lié à l'orgueil, que je combatte cet orgueil. Si mon péché est lié à la convoitise, que je m'éloigne de tout ce qui peut me tenter. Si mon péché est lié à l'impureté, que je m'éloigne, que je rejette tout ce qui pourrait me faire encore tomber. Si j'en ai voulu à quelqu'un, à un frère, à tort ou à raison, si j'ai mis de côté ma colère, mes ressentiments, il me faut ne pas les reprendre et les réinstaller dans mon cœur. J'ai pardonné. Pardonner ce qu'il m'a fait, ce qu'il m'a dit. Je n'ai quand même pas oublié. Et je ne vais pas oublier, je garde cela quelque part, précieusement. Je ne vais pas m'en servir, sauf si un jour c'était nécessaire, peut-être, on ne sait jamais. En fait, Saül reconnaissait ses torts face à David, et on l'a vu, même pleurer, et dire à David, mon fils. Mais il ne lui avait pas vraiment pardonné d'avoir blessé son orgueil, et il recommençait donc toujours à chercher à le tuer. Quand nous demandons pardon à Dieu, faisons-le sincèrement, conscient que nous ne méritons pas son pardon, qui nous est donné par pure grâce. Et lorsque nous pardonnons nous-mêmes, faisons-le pleinement, sans retour en arrière, comme Jésus nous y invite lui-même, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et si nous réfléchissons, il vaut bien dire que ce que nous avons jamais à pardonner à nos frères chrétiens et frères humains, ce n'est rien face à ce que Dieu a à nous pardonner du premier au dernier jour de notre vie. Dieu est-il mon Dieu ? Il est bon de suivre de bons exemples. J'ai vu en qui croyait ma mère, en qui croyaient mes frères et sœurs disparus, qui ont nourri ma foi de leur exemple, dans cette église même. Mais cela ne suffit pas. Il me faut croire en mon Dieu, celui qui s'est révélé à moi dans sa parole, celui qui m'a sauvé, celui dont je peux dire qu'il est mort pour moi aussi. Je ne suis pas sauvé parce que mes parents, mes amis, mes frères et sœurs, mes exemples ont cru et sont sauvés. Je suis sauvé uniquement si Jésus est mon sauveur. Il est mon Seigneur et mon Dieu. Cela ne supprime évidemment pas l'importance de la foi de l'Église. C'est tout un peuple qui est sauvé, mais un peuple constitué d'hommes, de femmes, qui tous et chacun ont cru en leur Dieu, dans son pardon, dans ses promesses, dans sa joie pour eux, pour chacun d'eux. L'échec, 7e étape. Bien sûr, nous ne vivrons probablement pas ce que Saül a vécu dans ce dernier jour de sa vie sur le champ de bataille. Mais tous les hommes connaissent, vivent des épreuves et des échecs. Échec à un examen, échec dans le travail, perte de son emploi, échec dans sa vie privée, déception, perte, ratage, blessures diverses, maladie qui ne va pas guérir, vieillesse qui s'installe, mort qui s'approche, chute spirituelle, perte de ses espérances, abandon de projets désirés. Tout est perdu, fort l'honneur, disait François Ier après la bataille de Marignan. Mais même l'honneur peut être perdu, tout peut être perdu pour l'homme, mais pour le chrétien. Une chose ne sera pas perdue, l'espérance forte et invincible en Christ Sauveur. Parce qu'il a vaincu la mort, parce qu'il est ressuscité. Quel échec alors ? Non plus l'échec, mais la victoire, non par nous-mêmes, non à cause de ce que nous sommes, mais avec lui et par lui. Enfin, dernière étape, une grâce, non pas peut-être, mais une grâce certaine si nous avons mis notre espérance en Christ. Oui, nous pouvons nous réjouir d'une grâce certaine en Christ et en lui seul, si nous avons mis notre confiance, notre espérance en lui. La grâce, elle est bien sûr imméritée par principe même. Elle n'est pas le fruit de nos efforts, elle n'est pas accordée parce que nous sommes quand même des gens bien, parce que nous sommes des évangéliques au-dessus de tout reproche. Elle n'est pas accordée à cause de nos parents, de nos pasteurs, de nos réalisations, elle est donnée à tous ceux qui croient en Christ comme en leur sauveur et qui la reçoivent comme quelque chose d'immérité, d'absolu, de bouleversant. Si nous avons reçu cette grâce, tout ce qui peut en nous ressembler à Saül, ce roi malheureux et pécheur, tout cela est effacé, rejeté, loin de nous, nous qui devenons donc dans le royaume de Dieu, prêtres et rois à sa gloire. Nous verrons une prochaine fois, Dieu voulant, ce qu'il en est de celui qui est le seul vrai roi, qui est notre roi, Jésus-Christ. Nous avons, survolant trop rapidement et trop longuement la vie de Saül, vu à quel point l'homme qui n'a pas une relation proche, personnelle avec son Dieu, peut s'égarer et risquer de se perdre gravement. Nous avons vu que nous-mêmes, nous n'étions pas si différents de Saül que cela. Notre prière, c'est que nous vivions pleinement de cette grâce qui est en Christ, qui non seulement nous pardonne nos fautes, nos péchés, mais qui nous permet d'éviter les erreurs, les fautes, comme celle de Saül. Nous permet de vivre d'une vie non pas parfaite encore, mais qui honore notre Dieu, notre roi, et nous donne une joie que nul ne peut nous ravir.